Ézéchiel, chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressé en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, par toutes leurs transgressions, je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Voilà une partie de la prophétie d'Ézéchiel qui est très intéressante et qui nous interpelle les uns et les autres. Et comme toujours, je voudrais dire en commençant cette méditation que lorsque on s'approche d'un livre prophétique, nous devons le faire avec une grande attention et surtout en particulier en soulignant le fait que, en premier lieu, la prophétie est adressée au peuple d'Israël. Et puis, en second lieu, bien sûr, il est possible de retirer un bénéfice pour nos âmes, un bénéfice pour l'Église actuelle, pour l'Église d'aujourd'hui, même pour notre Église. Nous ne pouvons pas oublier que dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 20 et 21, il est dit « Aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Mais par ailleurs, Paul dira dans la deuxième épître aux Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ainsi donc, dans un premier temps, nous allons dire juste quelques mots en ce qui concerne Israël, le peuple de Dieu, selon la chair, ici-bas sur la terre. Et puis ensuite, nous essaierons aussi de tirer un enseignement très rapidement, mais quand même d'une manière assez précise pour nos âmes, pour que nous soyons vraiment encouragés et que nous sachions que pour Dieu, comme nous l'entendons souvent, tout est possible. Alors, dans ce passage, vous avez remarqué, en premier lieu, il est dit que la main de l'Éternel fut sur le prophète Ézéchiel. Et d'un seul coup, il est transporté, là, au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il regarde ces choses-là. Dieu lui demande de faire le tour de ses ossements, de passer au milieu d'eux, et puis il va venir un ordre. Dieu lui dit « prophétise sur ses ossements ». Mais au préalable, il lui a posé une question, et il lui a dit « crois-tu que ces ossements peuvent revivre ?» Et là, il a une réponse qui est un peu particulière. Il ne répond pas avec présomption en disant « oui, c'est sûr, parce que pour toi tout est possible et tu es capable de faire une chose semblable ». Mais il ne dit pas non plus qu'il doute de cette possibilité, mais il s'en remet à Dieu très humblement, N'usant pas de présomption, il dit, toi, Seigneur, tu le sais. Vous savez, c'est important de souligner cela. Parce que parfois, on entend certaines prédications qui sont très optimistes et qui présentent les choses d'une manière très positive. Et nous pourrions croire qu'il y a là la pensée de Dieu, effectivement, parce que c'est vrai que lorsque l'on a la foi et la confiance à Dieu, on peut s'attendre à ce qu'il fasse des choses étonnantes. Cependant, il les fait toujours selon un plan bien précis. Il fait certaines choses selon ce que lui-même a établi d'avance. Et effectivement, eh bien, ce qui ressort de ce passage, c'est un peu l'histoire d'Israël, dans ce sens que dans le livre du prophète Ésaïe, eh bien, Dieu a parlé à ce peuple. Et il dit qu'il a établi, et je sais que vous connaissez ce verset, pour être la lumière des nations. Mais malheureusement, nous savons aussi que par sa désobéissance, par le fait qu'il n'a pas tenu compte de la parole de Dieu, qu'il a même douté du plan de l'Éternel à son égard, et qu'il a écouté la voix des faux prophètes, la voix de ceux qui se tournaient vers des idoles, qu'il a été assujetti d'ailleurs à l'influence reçue par certaines nations qui étaient idolâtres, à cause de tout cela, eh bien, je pourrais dire que sur le plan spirituel, ce peuple est mort. Et évidemment, la parole de Dieu, nous qui connaissons justement ce qui est écrit dans ce livre que nous considérons comme étant la parole de Dieu, et c'est une certitude, eh bien, Dieu n'abandonne pas pour autant le plan qu'il a établi pour ce peuple. Et nous savons que, dans une certaine mesure, ce plan a déjà été accompli, a déjà été réalisé. À cause de son péché, Israël a été dispersé sur toute la surface de la terre. Et quand nous trouvons ici les expressions « je les ferai sortir de leur sépulcre », l'expression « sépulcre » veut dire « ces nations » qui les ont maintenus dans la captivité et puis dans lesquels eux-mêmes ont été dispersés. Mais nous savons tous qu'il y a eu une période particulière que nous pouvons désigner avec une certaine précision, particulièrement à partir de 1948, où il y a eu quelque chose qui a été accompli, réalisé, un appel a été lancé, et alors que tous ces enfants d'Israël pensaient que jamais ce serait possible de revenir dans leur territoire, dans leur pays, dans le pays de la promesse. Dieu a accompli ce miracle et de partout, ils sont arrivés et se sont rassemblés dans ce pays qui est le pays d'Israël. Vous vous souvenez, en parallèle de la prophétie que Jésus a prononcé en disant « Quand vous reverrez le figuier reverdir, sachez que le temps est proche. » Et le figuier est toujours dans l'Écriture le symbole de ce peuple d'Israël. Et dans une certaine mesure, ce peuple a reverdi parce que, au détriment, je dirais, de la pensée négative de toutes les nations qui ne pensaient qu'à une chose, à la destruction de ce peuple. Et d'ailleurs, cela se poursuit encore. Israël reste vraiment dans le cadre de la volonté de Dieu et il est là, mais malheureusement, bien que les ossements se soient rapprochés, bien que de tous les pays Dieu les ait appelés et que beaucoup aient répondu à cet appel, il leur manque ce qui est essentiel, il leur manque le réveil spirituel. Et ça viendra. Le prophète, ici même, dans ce passage, eh bien, explique qu'un jour viendra le fils de David, Il est appelé ici David lui-même. C'est un descendant de David. Nous, nous connaissons qui c'est, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et un jour, il va descendre du ciel pour régner sur cette terre. Et la Bible dit que si nous, nous acceptons de souffrir avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire, j'espère que vous savez que le retour du Seigneur se fait en deux phases. La première phase, c'est celle qui consiste à voir l'Église de Jésus-Christ être enlevée, mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus ne vient pas poser les pieds sur cette terre. Il est dans les airs et nous, nous allons à sa rencontre. Ça, c'est la première phase. Vous savez comment est-ce que cela peut être expliqué? Je dis toujours, pour utiliser un exemple très simple, que si nous avons la même nature que Christ, que nous avons été régénérés par le Saint-Esprit et que nous sommes devenus participants de la nature divine, à cause de cela même, nous serons attirés par lui comme un aimant peut attirer la limaille de fer, parce que la limaille de fer est de la même nature. Et ce miracle s'accomplira avec certitude. Moi, je sais que le Seigneur revient bientôt, et je sais que vous le savez aussi. C'est une glorieuse réalité. Mais il y a, dans le retour du Seigneur, une autre étape qui est tout aussi glorieuse, sinon plus, je dirais, parce qu'il va descendre des cieux, nous viendrons avec lui, avec tous les anges, avec toute l'armée céleste. Et il va descendre et poser les pieds sur le mont des Oliviers, lequel se fendra, pour permettre à son peuple, qui subira une pression de toutes les nations, et il est facile de discerner combien cela est en train de se préparer. Avez-vous remarqué combien il fait l'objet de la haine de toutes les nations, de tous les peuples? Et cela va aboutir, évidemment, à une sorte de guerre épouvantable. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas mon propos ce soir. Mais Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Malgré ce qu'il est, son plan s'accomplira. Vous connaissez ce verset de l'Écriture qui dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et il viendra effectivement, non seulement cette fois pour délivrer son peuple, mais pour qu'il connaisse un réveil spirituel formidable. Parce que dans le chapitre qui précède celui que nous avons lu dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu a fait une promesse. Je vous lis par exemple cette promesse extraordinaire. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Pour le moment, ils sont restaurés, je dirais les ossements sont rassemblés, mais ce n'est qu'un cadavre, sans vie. Mais viendra ce temps où l'Esprit de Dieu va les remplir. Et par leurs moyens, savez-vous ce qui va se passer? La Bible annonce que toutes les autres nations vont aussi avoir l'aperçu de la gloire de Dieu au travers de ce peuple. Donc vous voyez, la prophétie d'Ézéchiel est encourageante. Bien que, avez-vous remarqué une chose? Je le dis comme préalable à ce qui va suivre pour nous dans le domaine spirituel. Lui-même n'a pas répondu avec certitude et conviction au sujet de ce que Dieu voulait faire. Et en ce qui concerne tous les habitants de Jérusalem et les habitants de ce pays, ils étaient dans le doute. Avez-vous remarqué un verset met en relief ce qu'ils pensaient? Et ils disaient, nous sommes desséchés. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est curieux, hein? Il parle de cette manière-là au moment où précisément Dieu, au travers du prophète Ézéchiel, leur apporte une parole qui est une parole d'encouragement. Ce peuple est étrange. Il prêtait attention à tous ces prophètes, faux prophètes, qui étaient intervenus au préalable, qui avait annoncé des mensonges. Il croyait ces choses-là, mais lorsque la parole de Dieu peut être un peu plus dure, que celle de ses prophètes vient leur apporter une espérance, ils sont là dans le doute et ils disent, est-ce que c'est possible que nos eaux desséchées retrouvent l'espérance? Non, disent-ils, notre espérance est détruite. Vous savez, Ézéchiel, en tant qu'homme de Dieu remarquable, va les mettre en face de leurs responsabilités. Et il y a une série de chapitres qui vont du chapitre 13 du livre du prophète Ézéchiel jusqu'au chapitre 34, où le prophète prend soin de dévoiler, je dirais, l'attitude des faux prophètes. Et quand il parle de ces faux prophètes, eh bien, il parle en ces termes. Il dit, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat. Et il dit au sujet de ces faux prophètes, au verset 6 du chapitre 13, leurs visions sont vaines, leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Il met en évidence aussi autre chose. Il dit par leur parole, au verset 11, « Eh bien, ils couvrent de plâtre la muraille sur laquelle on a remarqué qu'il y avait des brèches, mais une pluie violente surviendra, et vous, pierre de grêle, vous tomberez, la tempête éclatera, et voici la muraille s'écroulera. » Vous savez, j'ai l'impression qu'au niveau de l'Église, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été annoncées. Vous savez, il y a des hommes qui parcourent la surface de la terre en annonçant des choses qui sont extraordinaires. Vous savez, un petit peu comme Jude en parle aussi dans son épître, quand il dit qu'ils annoncent des choses formidables, mais il dit que ce sont des nuages sans eau. Ils font espérer qu'il y aura la pluie au moment où il y a l'aridité, la sécheresse. Mais d'un seul coup, en voyant le nuage, on dit « Ah, il va y avoir la bénédiction de la pluie », mais le nuage passe au-dessus de la tête et disparaît, et aucune bénédiction ne descend. Voilà ce qu'est la parole des faux prophètes, des faux enseignants. Et puis, il stigmatise également les chefs de ce peuple, qu'il appelle les pasteurs. Et regardez de quelle manière il s'adresse à eux. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, etc., etc. Il met en évidence toutes ces choses-là, ce qui a amené, en fait, le peuple d'Israël dans une situation très embarrassante, au point que tout espoir avait fini de disparaître de leur cœur. Toute espérance, eh bien, était perdue pour ce peuple, semble-t-il. Mais voilà, maintenant Ézéchiel annonce quelque chose de formidable. Et Dieu lui demande de prophétiser. C'est important, cette chose-là. Il lui demande de prononcer la parole de Dieu sur les ossements. Vous savez, quand je pense à cela et que je me mets à la place du prophète Ézéchiel, c'est quand même incroyable qu'il ait pu faire une chose semblable. Parler aux ossements, et il dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Réfléchissez un instant avec moi. Il parle à des ossements. Si quelqu'un l'avait remarqué en train de parler à ses ossements et prononcer une telle parole, vous ne croyez pas qu'il aurait pris pour quelqu'un de dérangé? Imaginez un d'entre vous se promenant dans un cimetière et annonçant des choses semblables. J'ai l'impression que bien vite, n'est-ce pas, nous aurions des hommes qui nous poursuivraient et qui nous amèneraient dans un hôpital psychiatrique, parce que parler à des ossements et leur dire « vous allez reprendre vie », s'il n'y a pas la foi en Dieu, eh bien, c'est vraiment un acte de folie. Et pourtant, nous savons. Il a prononcé cette parole. Et la première étape, c'est que la parole de Dieu a eu cet effet de rassembler les ossements et de restructurer de telle façon que les nerfs ont poussé, la chair a poussé, la peau a recouvert aussi ces ossements, et voici, ils sont devenus un cadavre. Ça, c'est une chose qui est importante. La parole de Dieu, elle est d'une grande efficacité. Faisons la comparaison maintenant sur le plan spirituel. Frères et sœurs, qu'étions-nous avant de connaître le Seigneur ? La déclaration de Paul dans son épître aux Éphésiens est celle-ci. Nous étions morts dans nos offenses. Mais laissons ça de côté. Nous connaissons quel est le miracle que Dieu a accompli dans notre vie. Grâce soit rendue à Dieu, nous sommes nés de nouveau. Mais Dieu a un plan pour l'Église. Et le plan de l'Église est présenté dans la parole de Dieu. Et ce plan, c'est quoi ? C'est que nous devons briller au milieu des ténèbres pour faire connaître la gloire de Dieu resplendissant sur le visage, la figure de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est aussi appelée à être la lumière des nations, la lumière du monde. Jésus a dit « Je suis la lumière » et il a ajouté « Vous êtes la lumière du monde ». Et ça devrait être gravé dans notre cœur, comme je dirais par des lettres de feu, comme par un burin sur du granit. Il faudrait que nous soyons conscients que nous avons une mission, et que la mission, c'est de refléter Christ dans ce monde. Parce que si quelqu'un peut vraiment convaincre les autres de leur état de péché, eh bien, ce n'est que lui qui peut le faire. C'est la raison pour laquelle je dis, c'est formidable, il parle à des eaux, et ce n'est pas sa parole qui a donné à ces eaux la vie, mais c'est que l'Esprit de Dieu était agissant au travers de ses mots, au travers de ses paroles. L'apôtre Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, à partir du chapitre 4, qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Et c'est vrai que la prédication a une place importante au sein de l'Église. Mais surtout la prédication de la parole de Dieu. Non pas la prédication de visions très particulières. Vous savez, pas la prédication de choses étranges, comme il nous arrive parfois d'entendre, comme cela parcourt tous ces médias et tous ces réseaux sociaux. C'est impressionnant de voir tout ce que l'on peut lire, tout ce que l'on peut voir et tout ce que l'on peut entendre. Mes frères et sœurs, l'Église doit être le canal de la parole de Dieu. Elle doit proclamer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, eh bien Jésus nous a dit, elle est esprit et vie. Elle a une puissance extraordinaire lorsqu'elle est prononcée dans la foi. Et plaise au Seigneur que lorsque nous rendons témoignage ou lorsque moi-même je prêche, eh bien je puisse avoir cette absolue confiance que je ne suis pas seul. Je parle, mais je sais que s'il n'y avait que ma force de persuasion pour convaincre les chrétiens ou les âmes, cela ne serait pas suffisant. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous sommes accompagnés du secours du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de demander cela plus que jamais, l'action de l'Esprit de Dieu pour appliquer la parole au cœur. Et la première chose que cette parole fait, eh bien, c'est de créer une sorte de structure. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a dans d'autres pays, eh bien, des églises qui pourraient nous donner envie. Et notamment dans certains pays asiatiques, comme dans d'autres pays, mais il y a une foule de personnes qui se rassemblent des fois dans certains bâtiments pour écouter la parole de Dieu. Et l'on peut se réjouir dans un certain sens de cela. Mais voyez-vous, je vais vous dire qu'il y ait beaucoup de cadavres ou peu de cadavres, le besoin est le même pour tous. Et ce qui est important, c'est que non pas il y ait le nombre, mais il y ait des hommes et des femmes ayant la vie de Dieu en eux. Vous comprenez cela? Dimanche matin, je parlais de la religiosité. Et nous pouvons très bien sombrer dans la religiosité. Certains d'entre nous pensent toujours que la religiosité, c'est le partage de ce catholicisme que nous avons parfois tendance à mépriser. Nous serions étonnés d'apprendre que peut-être parmi eux, certains, eh bien, dépassent de loin ceux qui, quelquefois, sont au milieu de nous et qui se contentent d'un rituel évangélique. Mes frères et sœurs, il faut que nous perdions l'habitude de juger de cette manière-là. Et il y a des églises qui peuvent être pleines, avec une ambiance extraordinaire, je dirais avec une atmosphère qui ne ressemble à rien à celles que nous pouvons connaître. Peut-être que les réunions sont beaucoup plus enthousiasmantes que celles que nous pouvons connaître. Et cela nous impressionne et nous disons, ah, mais si nous pouvions connaître cela, écoutez bien mes frères et sœurs, Dieu ne se fie jamais aux apparences. Il regarde au cœur. Et c'est ça qu'un jour, il m'a été révélé au travers de la déclaration d'un certain prédicateur qui était un évangéliste connu, qui a parcouru différents pays, et il m'a dit un jour ceci, tu sais Samuel, j'ai vu beaucoup de réveils religieux. Il a dit cependant très peu de réveils spirituels. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, et en lisant la parole de Dieu, j'ai compris. Vous savez, il peut y avoir des fois une émulation qui se crée, il peut y avoir un enthousiasme tout à fait, je dirais, artificiel, qui pourrait faire croire que quelque chose est en train de se passer. Effectivement, peut-être quelque chose se passe, exactement comme quand les ossements se sont rassemblés les uns aux autres, mais il manquait l'essentiel. Il y a eu d'abord la prophétie annonce à ces ossements la parole de Dieu. Et Ézéchiel s'est exécuté, il a fait cela. Mais une fois qu'il a terminé cela, Dieu lui demande de prophétiser d'une autre manière. Et il dit maintenant, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Et vous voyez ce qui avait été annoncé au chapitre 36. Alors maintenant, vient de s'accomplir. Maintenant, ça se révèle. Et ceux qui étaient là, comme un cadavre, avec les os, les nerfs, la chair, la peau, mais sans vie, d'un seul coup, eh bien, est devenu vivant. Et là, on peut voir qu'il y a un miracle de Dieu et l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu, du plan de l'Éternel. Et je pense, mes chers frères et sœurs, que nous avons besoin de demander à Dieu de nous renouveler par son Esprit Saint. Que nous avons besoin, justement, même si nous avons participé déjà à certaines expériences dans ce domaine. Vous savez, il faut que le canal que nous sommes en tant qu'Église soit vraiment rempli du Saint-Esprit, que Christ ait toute la place au milieu de nous. Pourquoi? Parce que ça, ça va amener la véritable unité. La véritable unité. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une unité apparente. On s'appuie sur certaines choses extérieures pour susciter une unité apparente. Mais la véritable unité, elle repose sur une base qui est révélée dans le chapitre que nous avons lu. Et je voudrais, en terminant ma méditation, vous parler de cela. Après que l'Esprit de Dieu ait communiqué cette vie à ce cadavre qui se soit mis debout, alors la parole de l'Éternel fut adressée justement à Ézéchiel et il lui dit, « Toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas. » Rapidement, je vais vous dire, nous savons tous que le peuple d'Israël était divisé en deux royaumes. Il y a le royaume de Juda, et puis il y avait le royaume du Nord, le royaume d'Israël, à qui on a donné le nom d'une tribu qui était représentée comme leader, comme chef. Il y avait donc d'une part le royaume du Sud, le royaume du Nord, et puis il dit « Tu prends un bois ?» qui représente ce premier royaume de Juda, un autre bois qui représente le royaume du Nord. Il dit, tu écris là-dessus, eh bien, les familles qui appartiennent à ces différents royaumes. Et puis tu vas faire quelque chose, tu vas rapprocher ces deux bois-là, de telle sorte qu'ils ne deviennent qu'une seule pièce. Et à partir de ce moment-là, alors le prophète est obligé d'annoncer quelque chose. Et il dit, mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Je tourne vite quelques pages de la Bible pour en arriver au Nouveau Testament et notamment dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et je lis par exemple dans cet épître de Paul aux Éphésiens, c'est pourquoi... Vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Ça ne devient pas clair? Les deux bois de la croix qui n'ont fait qu'une seule et unique pièce. La seule chose qui peut nous rapprocher les uns des autres, c'est la croix. Il n'y a que ça. Je ne peux pas être réconcilié, ni non plus avoir la paix avec quelqu'un. Sur le plan spirituel, entendez-moi bien, qui ne vit pas ce qu'est la croix. Jésus a pourtant dit cela. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il vienne après moi et qu'il me suive. En ne renonçant pas à nous-mêmes, ce que nous faisons, c'est nous éloigner les uns des autres. Mais en renonçant à nous-mêmes, oui, là, il peut y avoir, dans la mesure où c'est vrai, dans les deux parties, une vraie action de Dieu. C'est quand même formidable. Regardez le peuple dans le monde, composé aux yeux de Dieu de ces deux choses-là. Le peuple juif, puis les païens. Et évidemment, Dieu n'a pas choisi ce peuple par prédilection, comme pour dire qu'il aimait davantage ce peuple que les autres. Non, il a choisi ce peuple pour qu'il devienne une bénédiction pour toutes les autres nations. Mais ayant rejeté la croix, ayant rejeté Christ, eh bien, il est devenu le point d'inimitié, de haine contre lui, de toutes les autres nations. Sauf, regardez, quand ils sont rassemblés en Jésus-Christ dans une église. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas ce soir, mais s'il y avait ici des enfants d'Israël et nous, peut-être les enfants d'autres nations, nous savons qu'il n'y a pas de différence pour nous. Je peux aimer un enfant d'Israël de la même façon que j'aimerais un Espagnol de ma race ou un autre personnage faisant partie de la patrie à laquelle j'appartiens, qui est la France. Vous comprenez bien, qu'est-ce que c'est qui nous rassemble? C'est la croix. C'est l'œuvre qu'il a accomplie dans nos vies, l'œuvre qu'il a accomplie dans nos cœurs. Alors, ce qui est vrai pour ces deux groupes, d'une part, justement, Israël, d'autre part, les païens, c'est également vrai pour ce qui se passe quelquefois, hélas, à cause du travail de l'ennemi au milieu du peuple de Dieu. Il sépare, il divise. Mais une chose peut nous rassembler, c'est la croix, pourvu que nous l'acceptions dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, moi je trouve ce passage qui est vraiment remarquable, parce qu'il peut remplir notre cœur d'une véritable espérance. Et je prie le Seigneur, pourquoi? Pour que malheureusement, tous les chrétiens qui se sont laissés avoir par des paroles mensongères, par des visions étranges, par ceux qui ne correspondent pas au plan rédempteur de Dieu, puissent entrer dans la juste vision de ce que la parole de Dieu souligne, met en relief, parce que Dieu, lui, ne change pas et il accomplira toujours parfaitement cela. Et je ne peux pas concevoir, pardon de vous parler avec mon cœur, mais je ne peux pas concevoir que le Seigneur revienne bientôt et qu'il trouve une église dans l'état où elle est à l'heure actuelle. Vous comprenez? Le seul moyen, c'est qu'il y ait une action puissante, réelle, du Saint-Esprit. Frères et sœurs, prions dans nos maisons pour que la parole de Dieu soit appliquée à nos cœurs, que nous la vivions. Je vais vous dire pourquoi, et je termine vraiment par là. Pourquoi il faut la vivre? Eh bien, j'ai un témoignage tiré de la parole du Seigneur. Regardez Lot. Lot était injuste, d'après la déclaration biblique. Il était injuste, mais qui ne se séparait pas du mal. Il était là, aux portes de Sodome et de Gomorre, et il participait d'une part à ce qu'il croyait de Dieu, et d'autre part à certaines choses, même si cela le blessait, mais il ne pouvait pas s'en séparer. Son âme de juste souffrait de voir certaines choses, mais il ne prenait jamais de décision. Puis quand véritablement il a été mis en face de cette révélation, attention, Sodome et Gomorre va recevoir le jugement. Alors, il a été dit à cet homme de parler aussi aux membres de sa famille. Et vous savez comment il a fait? Il a parlé aux membres de la famille. Et il a parlé à ses gendres, à ses enfants. Et la Bible nous dit qu'ils ont entendu cela. Et à leurs yeux, il paraissait blaguer, pardon de l'expression. Il paraissait dire des choses qui n'étaient pas tout à fait réelles. C'était amusant pour eux ce qu'il disait. Voyez-vous, mes frères et sœurs, pour avoir un impact, il faut que les gens remarquent que notre vie est différente. Il faut que les gens remarquent que notre témoignage est tout à fait différent. Parce que sinon, bien, nous allons paraître aussi à leurs yeux être des plaisantins. Avoir une plaisanterie dans notre bouche. J'ai peur que certains, ayant observé certaines choses dans le monde, pensent que les chrétiens, ce sont des plaisantins, parce qu'ils ne voient pas la réalité de cette vie sanctifiée que seul le Saint-Esprit, en appliquant la parole de Dieu à nos cœurs, est capable de susciter et de créer. Alors, si nous voyons cela, vraiment prions le Seigneur. Crions à lui et demandons-lui d'accomplir cela pour notre temps, parce que je crois que Dieu est capable de le faire. Que le Seigneur nous conduise dans ce moment de prière encore.